Donc, monsieur l'abbé Troidec, sachant que j'ai passé un certain nombre d'années dans l'enseignement, m'a demandé de vous parler d'école. Alors, comme vous le savez, l'éducation, c'est l'art des arts. Je pense que ce serait bien présomptueux de ma part de prétendre d'être venu un spécialiste de ce domaine. Je pense qu'on est toujours apprenti dans une fonction aussi noble, aussi sacrée. Il me semble qu'au bout de 18 ans d'enseignement, il me semble que j'ai appris au moins ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà pas mal. Hein. Alors, après ces années, il me semble qu'un des sujets essentiels qui guiderait si j'avais à retourner dans l'enseignement, et j'espère tout mon cœur un jour que je finirai ma vie de prêtre dans une école, il me semble qu'un des sujets qui me tiendrait le plus à cœur à communiquer à ces âmes, ces élèves, ce serait justement de leur parler de la joie. Ouais. Parce qu'on est fait pour le bonheur, il n'y a rien à faire. Et tous les grands saints, surtout comme Saint Jean Bosco, nous montrent que de mettre nos enfants dans la vraie joie, c'est les sanctifier. On ne fait rien. Le bon Dieu nous a créés pour le bonheur. On ne fait rien sans avoir cette jouissance vraiment de la joie. Mais justement, mener nos enfants à la vraie joie, au vrai bonheur, c'est ça la question. Ouais. Alors. Vous voyez, j'ai fait cette distinction. Il y a d'abord une joie satanique, une joie démoniaque. Ouais. Celle qui mène à la mort. Hein. Toutes les autres joies, elles mènent à la vie. Vous voyez, la joie, c'est l'épanouissement de la vie. Quelqu'un qui vit bien, vous voyez, qui se possède bien, etc., il a cet agrément, il a cette jouissance qu'on appelle la joie. Donc la vie sensible a une sorte de joie qu'on appelle le plaisir, la vie spirituelle a cette jouissance, la joie naturelle, et puis notre vie surnaturelle, notre vie d'enfant de Dieu, a comme joie la béatitude éternelle. Ouais. Mais je commence donc, il y a une joie qui mène à la mort, au lieu de mener à la vie, ouais. C'est celle du démon. Ouais. Par exemple, un enfant, ouais, il sent... Vous voyez qu'un petit enfant qui n'a pas l'usage de la raison, vous sentez qu'il a un certain plaisir, quelquefois, ouais, à voir les autres se faire mal. Ouais, l'enfant peut avoir avoir une certaine tristesse de voir les autres réussir. Ça, c'est une joie mauvaise, une joie satanique. Il faut corriger l'enfant, lui faire comprendre que cette joie qu'il a, ouais, en voyant quelqu'un se casser la figure et bien s'escamoter, ouais. Ça, c'est une joie mauvaise. Il doit lutter la contre parce que c'est malsain. Ça, c'est du démon. Ouais. On peut avoir une joie aussi en faisant de la médisance. Une sorte de... Je ne devrais pas... C'est profaner le mot joie. Ouais. C'est une impression malsaine. Ouais. La médisance, c'est prendre plaisir à salir la réputation que d'autrui. Quelqu'un que j'envie, que je jalouse, ouais, eh bien, je le rabaisse dans l'opinion d'autrui en révélant ses péchés, en révélant ses torts, etc. Ça, c'est malsain. Et un enfant qui vient me... voilà, je viens vous dire, l'autre, il a fait ci, il a fait ça, etc. Il faut le corriger, parce qu'il aurait plaisir à voir qu'on punit son camarade. Ouais. Dans la haine, dans l'homicide, il y a aussi une certaine impression malsaine de détruire quelque chose... par volonté de nuire. Et puis le scandale, c'est quelqu'un qui, voyant une âme innocente, va lui apprendre le mal par le plaisir de la déflorer, le plaisir de la salir, etc. Ouais, le scandale proprement dit. Donc, apprendre à l'enfant qui ne fait pas ce discernement. Avant même l'usage de la raison, je dois éduquer l'enfant en lui montrant que quelquefois, on peut avoir des impressions de plaisir, des impressions agréables, qui sont nuisibles, qui sont nocives, qui sont malsaines, contre lesquelles l'enfant doit lutter. C'est ça l'éducation. Ouais. Il n'a pas le droit de céder à ce plaisir-là. Ouais. Alors maintenant, venons-en à la joie animale. Alors, quand on parle, si vous voulez, de cette jouissance animale, il ne faut pas employer le mot joie. Le mot joie a un sens très noble qui ne convient qu'à des créatures spirituelles. La joie... n'existe que dans un être spirituel. Dans un être qui est purement sensible, la jouissance s'appelle le plaisir. C'est complètement différent. Le plaisir et la joie sont complètement différents. Ouais. Alors, un animal, il n'a que le corps, justement. Ouais. Il n'a qu'une vie sensible. L'animal, à la différence de l'homme, il n'a pas de vie spirituelle. Donc, il ne peut pas avoir de vraie joie qu'on trouve dans le vrai, dans le bien, dans le beau. Hein, vous n'avez jamais vu un chien contempler un paysage, etc. Hein, la joie spirituelle, ça n'existe pas chez un animal. Pourquoi ? Parce qu'il est purement sensible. Donc, la jouissance qui correspond à la vie sensible, mais c'est quelque chose de très bon. Heureusement, on a plaisir de... On est enchanté de voir nos animaux, comme le chien, bouger sa queue, etc. Hein? Alors, quels sont ces plaisirs qu'on trouve chez l'animal ? Eh bien, c'est le bien-être et le confort. Ouais, vous voyez qu'un animal, il est sensible à la température. Hein, quand il fait chaud, vous voyez que les vaches vont à l'ombre, etc. Hein, le chien, si vous lui demandez de se coucher dehors sur un paillasson pourri, et il n'aura pas les mêmes réactions que si vous le mettez sur votre tapis dans la salle à manger. Il est sensible. Hein. Donc, il a plaisir à trouver le bien-être, le confort. Dans l'alimentation, l'animal, vous voyez bien, quand vous lui donnez à manger ou à boire, quand vous le faites reposer, il aime dormir. Tout ça, c'est les plaisirs sensibles. Ouais. Dans la reproduction, dans l'accouplement, évidemment, le bon Dieu a voulu aussi que les animaux aient ces jouissances sexuelles. C'est tout à fait normal. Et puis, vous voyez aussi qu'un des plaisirs de la bête, c'est de vivre bien souvent en société. Pas tout, il y a des animaux qui vivent très isolés, etc. Mais d'ordinaire, c'est par groupe, c'est par horde. Ouais, vous voyez, dans un pré, bien souvent, les vaches, quand elles se couchent, elles sont l'une contre l'autre, etc. Alors qu'il y a tout un pré où elles pourraient se mettre... Alors ça, c'est très important, parce que nous avons une partie animale en nous. Nous avons une partie animale. Nous avons une vie sensible en nous. Et il est normal que nous éprouvions du plaisir. C'est légitime, le bon Dieu le veut. Hein, lorsque vous allez manger, vous n'allez pas faire exprès de mettre de la saleté dans votre nourriture pour que vous n'ayez pas le plaisir de manger. Ça serait complètement cinglé. Hein. Vous prenez du plaisir dans le sommeil, si vous êtes dans le mariage, et les jouissances sensuelles dans le mariage, selon les règles de l'Église, bien sûr, admettent tout à fait ce genre de plaisir. Hein, selon les lois de l'Église, c'est tout à fait noble, tout à fait permis, etc. Et puis, on aime aussi, vous voyez bien, les gens qui partent en vacances, toute l'année, ils sont dans un HLM, coincé, ils vont sur la plage, à nouveau. Très bien. Donc, vous voyez que le plaisir sens... Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que l'animal, sa destinée, elle est là, elle s'arrête là. Vous pouvez à votre chien, à votre chat, les gaver, etc., jusqu'à vomir, vous ne leur faites jamais commettre de péché. Il n'y a aucun problème, ils sont faits pour ça. C'est leur destinée, oui, d'éprouver du plaisir. Donc, allez-y, vous gênez pas. Bon, n'allez pas dépenser. Et ce qui est très beau, si vous voulez, c'est que la nature des animaux fait en sorte qu'une fois qu'ils ont un certain niveau de plaisir, il y a le clapet de sécurité qui font qu'ils ne vont pas aller au-delà. Ouais. Ils ne vont pas aller au-delà. C'est très rare, justement, de voir un animal qui, à force de manger, va se rendre malade de manger. Non, il y a un moment où il a suffisamment mangé, il y a le clapet de sécurité qui se met en branle, et ça s'arrête. Ouais. Dans la reproduction, par exemple, c'est très typique, on voit que la reproduction, c'est dans certaines périodes, etc., que ça se passe, l'accouplement, etc. On sent que c'est programmé, qu'il y a des lois, et que les animaux suivent ça tranquillement. Ouais. Donc, je trouve, vous voyez, très désordonné quand on dit qu'un homme qui se conduit mal, on dit qu'il se conduit d'une manière animale, d'une manière bestiale. Mais c'est très injuste pour nos chers animaux. Parce qu'il n'y a aucune déchéance chez eux, on n'a pas le droit de dire ça. C'est mépriser nos chères bêtes. Ouais. Mais non, on n'a pas le droit. C'est bien pire. Enfin, j'ai pas le droit de dire que c'est pire, comme si c'était mal. Mais non, c'est bien. C'est dans leur nature. Le plaisir qu'ont les animaux, etc., c'est leur finalité. C'est ce pourquoi ils sont créés. Ils peuvent s'arrêter là sans aucune indignité, sans aucun avilissement, sans aucune dégradation. Ils sont faits pour ça, pour les plaisirs de la bouche, pour le confort, pour la reproduction, etc. Vous avez même des animaux, vous voyez, la plupart des animaux, ils changent de partenaire, si vous voulez, d'une saison à l'autre, etc. Mais pas tous. Si vous vous intéressez à ce sujet-là, vous avez des animaux qui, les deux partenaires, jusqu'à leur mort, restent fidèles. C'est quand même merveilleux. Le bon Dieu a voulu nous donner cette image même. Je vous assure que ce n'est pas un dogme de foi que je vous impose. Allez dans les livres et vous le vérifierez. Ouais. Donc c'est très intéressant de voir, vous voyez, que les plaisirs de la vie sensible, puisque qu'est-ce qui fait, vous savez, que le premier niveau de la vie, hein, c'est les végétaux. Il y a une vie dans les végétaux. Alors dans les végétaux, vous avez l'alimentation, vous avez la reproduction, mais vous n'avez pas la sensibilité. Quelle est la différence entre la vie végétale et la vie animale? Eh bien, c'est que justement, l'animal, par rapport au végétal, il est sensible à la douleur et au plaisir. Vous n'avez jamais vu une fleur, lorsque vous l'arrosez, remuer les feux, etc. Parce qu'elle n'a pas de vie sensible. La plante, si vous voulez, la vie végétale, il n'y a pas cette notion de plaisir. C'est ça la différence. Quand on passe de la vie végétale à la vie animale, d'une plante à une animale, eh bien, il y a cette notion de plaisir et de souffrance. Vous voyez, lorsqu'on va, vous avez un peuplier, etc., vous allez lui couper les branches, etc., vous n'allez pas le voir pleurer ou gémir, etc. Non, parce qu'il n'a pas ni plaisir, ni douleur, ni souffrance. Il n'a pas de vie sensible. J'espère être assez clair. Alors maintenant, j'ai mis la joie angélique. En fait, c'est la joie humaine. Mais pourquoi j'ai mis angélique? Parce qu'elle est propre à l'ange. L'ange ne peut pas du tout avoir ce genre de plaisir. Étant donné que l'ange n'a pas de corps, il ne peut pas avoir de plaisir sensible. Ouais, il ne peut pas avoir ce type. Mais nous sommes un petit peu à la charnière. Ouais. Nous sommes à la fois comme l'ange, nous avons une âme, nous avons un esprit, mais aussi nous avons une partie animale. Ouais. Alors, pourquoi j'ai appelé ça angélique? Parce qu'elle est propre aux anges, elle est spécifique aux anges, mais elle nous est destinée aussi, parce que comme les anges, nous avons un esprit, même si nous sommes des êtres mitigés. Donc, la vraie joie de l'homme, ouais, c'est justement cette joie angélique. C'est l'homme, vous voyez, qui trouve sa jouissance dans le vrai, dans le bien et dans le beau, c'est la joie propre de l'homme par rapport à son âme. Alors, l'homme, bien sûr, voyez, étant donné qu'il a une partie sensible animale, il a tout à fait le droit de partager avec l'animal ses mêmes plaisirs. Mais attention, attention, l'homme ne peut jamais s'adonner à ses plaisirs, oui, au dépens de cela, parce qu'à ce moment-là, il se dégrade. Alors, je vous donne des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? La joie, là vraiment le mot convient. Oui. La joie, c'est cette jouissance très noble, très élevée d'un esprit, oui, qui vibre, oui, qui est satisfait dans la considération du vrai, du bien et du beau. Alors, je vous donne des exemples. Le vrai. Oui. Par exemple, un enfant, il a la curiosité. Vous voyez qu'un enfant, même avant l'usage de la raison, il est sans cesse à vous dire « Pourquoi ? Pourquoi ?» Jamais un animal, même le macaque le plus doué, va vous poser une question. C'est pour lui, c'est... Non, ça, il a jamais, si vous voulez, cette soif de connaître le vrai. Donc, quelles sont les joies naturelles qu'on éprouve dans le vrai? Eh bien, c'est la culture, c'est la science. C'est dans la vie de l'intelligence, c'est dans l'étude, c'est dans l'enseignement. Je pense, vous qui êtes mère de famille ou institutrice, en transmettant votre savoir, vous avez une jouissance incroyable et très belle, très noble, mais aussi d'écouter. On se lâche jamais d'apprendre, jamais. Vous voyez, il me semble qu'une règle qu'on nous a enseignée essentielle dans un sermon, c'est de faire en sorte de ne pas répéter des choses que les gens... On répète, bien sûr, mais il faut toujours qu'on sorte d'un sermon en se disant « j'ai appris quelque chose ». Parce que justement, dans tout esprit humain, il y a cette soif de connaître. Et c'est vraiment propre à l'homme, cela, la soif du vrai. Et quand on possède une nouvelle connaissance, vous en avez tout fait l'expérience, Ouais. Eh bien, on se sent enrichi, on se sent ennobli, on se sent épanoui de connaître le vrai. Le bien, maintenant. Le bien. Alors, qu'est-ce que j'appelle le bien? Eh bien, c'est les vertus. Vous voyez, quelqu'un qui a été bien éduqué, il sent qu'il a une maîtrise de lui. Il a eu un savoir-vivre, il a eu une éducation. Et pour lui, c'est vraiment essentiel pour sa vie. Ouais. Donc, l'éducation. Les vertus domestiques. Oui, j'ai des parents qui, très jeunes, m'ont appris à vivre propre, à aimer fort, à faire du sport, etc. Et pour moi, je leur en suis infiniment reconnaissant. Mes parents m'ont vraiment donné ce goût du bien. C'est aussi l'honneur, la réputation. Vous voyez, quand vous entendez quelqu'un qui bave sur vous, etc., ça vous fait souffrir terriblement. Parce que pour vous, si vous voulez, l'estime, la considération, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous préféreriez perdre une très forte somme d'argent plutôt que de perdre votre réputation. Pour vous, les biens matériels sont en dessous de ce bien spirituel qui est l'honneur, la réputation. Ouais. Donc, l'amitié, pour vous, c'est un bien essentiel. Ouais. Ensuite, le beau, combien l'homme trouve de la jouissance dans le beau? Eh bien, ça peut être la pratique des arts. Probablement, vous aimez soit la musique, je ne sais pas, la peinture, etc. Il y a des arts qui vous intéressent. Hein? Ça peut être la profession, un métier. Je pense que toutes, vous cherchez justement un métier, une profession qui vous valorise, quelque chose qui vous intéresse, où vous vous sentez épanoui. On reconnaît votre savoir, votre compétence, etc. Ouais. Les responsabilités sociales. Lorsqu'on vous fait confiance, qu'on vous confie telle responsabilité, vous vous sentez honoré. Il y a une joie tout à fait noble, tout à fait belle, ouais, de la, qu'on peut classer là. La vie des œuvres. Quelqu'un qui fait du bénévolat, qui appartient à des œuvres associatives, etc., ouais, il fait le bien et il sent que ça l'enrichit. Que vraiment tout ça, c'est très important dans sa vie. Ouais. Donc, et là, vous voyez que là, il n'est pas question du tout de religion. Je n'ai pas parlé de religion. C'est très important de faire cette distinction. Oui. La joie naturelle. Je ne parle pas de la joie surnaturelle que l'on a en tant que chrétien par l'état de grâce, par les vertus surnaturelles. C'est autre chose, ça. On peut très bien, et vous en trouvez, c'est ça qui est très frappant, c'est qu'on trouve des gens... Ouais, qui ont une sorte de rectitude morale, c'est des gens qui sont ascètes, ouais, qui n'en ont rien à faire du confort, etc., qui sont très sobres, ouais, et qui sont très droits dans leur vie conjugale, etc., mais qui par contre ont une activité intellectuelle, une activité morale, une activité artistique merveilleuse, très féconde, et on en trouve, et c'est vraiment, ces gens sont dignes d'admiration. Mais en même temps, vous trouvez que ces gens n'ont aucune recherche par rapport à la foi pour eux, si vous voulez, de pratiquer leur religion, etc. C'est complètement indépendant. Pour eux, ça ne les touche pas du tout. Mais par contre, pour eux, ils ont mis tout leur intérêt. C'est des gens qui font des découvertes, qui font des voyages, etc. Parce que sans cesse, ils ont cette soif, vous voyez, du vrai, de faire le bien et puis de pratiquer le beau. Ouais. Et c'est très noble, ces gens-là, ils sont pleins d'admiration. Mais vous voyez que c'est complètement indépendant de la dernière catégorie. Là, c'est vraiment celui qui, justement, met son bonheur, ouais, dans les joies surnaturelles, dans les biens d'éternité qu'on trouve dans la religion. Alors, la foi, ouais. Est-ce qu'on peut trouver de la joie dans la foi? Mais bien sûr. Ouais, pourquoi? Parce que la foi, c'est participer à la vérité de Dieu. C'est connaître Dieu comme il se connaît lui-même. Ouais, dans la foi, il y a une jouissance intellectuelle, spirituelle, qui est beaucoup plus forte que celle que l'on a, ouais, dans la connaissance purement naturelle. Ouais, la joie qu'éprouve un scientifique en biologie, en histoire, etc., n'est pas comparable avec la joie du chrétien. Vous voyez qu'il y a une sorte d'intuition, une sorte d'intimité avec Dieu. Il pénètre la vie de Dieu. Vous voyez, il a une connaissance vraiment divine des choses qui se passent en Dieu. Donc il a une joie beaucoup plus grande, beaucoup plus noble, et qui est surnaturelle, justement. Ensuite, dans l'espérance. Comment on peut, dans l'espérance, avoir une joie? Vous voyez, c'est la vie surnaturelle. Et là, on a une joie bien supérieure. Eh bien, parce que par l'espérance, oui, on a la ferme assurance de participer au bonheur de Dieu. On s'appuie sur les promesses les engagements que Dieu a faits pour avoir l'absolue assurance, la plus de sécurité, que ce bonheur infini de Dieu, ce bonheur éternel, on le possède d'une certaine manière déjà sur terre. On en a une sorte d'anticipation, on en a un avant-goût. Ouais. Et ça n'a pas de comparaison, cette joie surnaturelle que donne l'espérance par rapport à la joie qu'on peut avoir en pratiquant le bien. Elle est d'un ordre tout à fait différent. Et puis enfin, la joie qu'on en éprouve dans la charité, eh bien, c'est évidemment d'avoir cette possession de l'amitié de Dieu. Ouais. Celui qui écoute ma voix, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui écoute ma parole et qui la met en pratique, mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Eh bien, je pense que toutes, hein, avec moi, on a fait cette expérience un jour ou l'autre. Dans des moments de ferveur, on a vraiment été, d'une certaine manière, presque... on a fait cette expérience peut-être d'une manière tangible de la présence de Dieu en nous. Et ça, c'est un bonheur, une joie surnaturelle qui n'a aucune comparaison, évidemment. Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que bien souvent, on a tendance à sous-estimer ces biens-là. Ouais. On voudrait, dans l'éducation, je pense que c'est une erreur fondamentale, ouais, de vouloir éviter que mon enfant devienne, hein, devienne mou en cherchant, etc., que mon enfant devienne gourmand, que mon enfant devienne sensuel. Alors je vais lui faire faire de la religion, hein, en veux-tu, en voilà. Hein, alors si je le mène chez les curés, si je lui fais faire de la piété, etc. Bien sûr, mais un an, vous voyez, pour avoir ce bonheur, cette joie surnaturelle, ça demande un éveil, ça demande un cheminement, ouais, qui est quand même relativement difficile. L'enfant est sensible, et assez vite, effectivement. Il faut éveiller, avec la grâce du baptême, très vite, on peut faire découvrir à l'enfant ses joies surnaturelles, etc. Mais il faut surtout pas mépriser celle-là. Avant d'être un fils de Dieu, l'enfant, il est un homme. Il est un être humain. Ouais. Donc, il faut absolument, dans l'éducation, ouais, donner à l'enfant ce goût du vrai. Alors évidemment, quand vous êtes en train de lui faire faire, hein, du Racine, du Sina, etc., quand vous avez, à partir de quel moment vous allez sentir vos élèves se délectent au style de l'auteur, etc. Il va falloir pédaler un moment. Hein. Ouais. Autant lorsque vous donnez un bonbon ou un gâteau à l'enfant, là c'est immédiat. Si vous voulez le plaisir, pfft, hein, il est immédiat et votre enfant vous remercie. Pour faire saisir à l'enfant la joie qu'on éprouve dans la rigueur d'une démonstration arithmétique, il va falloir un peu de temps. Hein. Ouais. La joie d'un enfant, vous voyez, lorsque vous lui faites rendre un service. Ouais, vous voyez un vieillard là qui rentre dans son appartement avec très... Eh bien, vous demandez à votre enfant, allez, tu l'aides à monter dans l'ascenseur et tu rentres chez lui pour lui mettre ses bagages. Et l'enfant revient joyeux. Il faut lui dire, là, tu vois, tu as sacrifié un peu ton confort. Oh, tu aurais préféré bien être tranquille, etc. Ne pas avoir cette suée à monter. Mais tu as une joie plus noble celle d'avoir rendu service. Ouais, c'est comme ça qu'un enfant. Et on doit faire comprendre à l'enfant que ces joies spirituelles, bien souvent, elles exigent un peu de sacrifier les plaisirs sensibles. Et ça me semble essentiel, ouais, dans l'éducation. Lorsque vous voulez faire un sacrifice à un enfant, par exemple, vous allez lui dire, eh bien aujourd'hui, on va faire une sortie, mais attention, je t'avertis, on couche sur tente, c'est-à-dire on couche, hein, il n'y aura pas le matelas, etc., tu vas coucher sur la dune. Ouais. Ou bien, eh bien, écoute, c'est le vendredi saint, hein, on va se priver d'un peu d'alimentation, etc. Il faut surtout... Il faut surtout à l'enfant lui montrer que ce à quoi il va renoncer de manière sensible, il va avoir en compensation une joie naturelle et surtout une joie surnaturelle. C'est-à-dire que l'enfant qui a accepté, eh bien, de faire cet effort pour cette excursion, sans doute il a couché sur la dure, ça a été pénible, etc. Mais il a un spectacle merveilleux. Au bout du compte, au bout de cette marche fatigante, etc., il a un spectacle de la nature, il domine toutes ces vallées, etc. Et vous lui faites découvrir que ça valait la peine. Ça valait la peine de sacrifier un peu de bien-être, d'avoir cette suée, d'avoir un peu froid, de coucher sur la dure pour éprouver cette sensation de cette beauté de la nature, de cette grandeur, de la majesté, de la création, etc. Ouais. Lorsque vous lui faites faire un sacrifice, ouais, lui dire attention, par ce sacrifice, tu t'es vraiment uni à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, on est vendredi saint. On va rappeler l'anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ce sacrifice que tu as fait, en te privant de ton dessert, oui, en ne reprenant pas du plat principal, eh bien vraiment, lorsque tu vas t'agenouiller, tu pourras dire à Jésus, crucifié, lorsque tu vas baiser la croix, tu pourras lui dire, moi aussi j'ai un peu souffert par amour pour vous. Vous, vous avez souffert par amour pour moi, mais je suis content de pouvoir vous apporter ça. Faire comprendre à l'enfant, ouais, que chaque fois qu'on se prive d'un plaisir sensible, ouais. Et c'est, oui, lorsque vous avez la préface du carême dans votre missel, l'Église vous montre que dans le jeûne qui nous prie de, etc., eh bien l'âme va s'épanouir, l'âme va s'ouvrir, il va y avoir des avantages merveilleux, des avantages extraordinaires. Ouais. Donc voilà, il me semble que c'est important de montrer. Alors maintenant, vous voyez, une des choses aussi qui me paraît essentielle par rapport à ça, vous voyez, imaginez un religieux ou un prêtre, vous voyez, qui s'est tout donné au bon Dieu. Ouais. Et il arrive dans une période, comme nous en avons tous, vous comme nous, de sécheresse, vous voyez, d'aridité spirituelle. Le bon Dieu permet, vous voyez, que, au lieu d'avoir cette jouissance surnaturelle de la foi qui illumine mon intelligence, il est dans les ténèbres. Ensuite, dans l'espérance, ils se sont terriblement tentés des doutes contre la miséricorde de Dieu, contre la confiance en Dieu. Et puis la charité, ils se sont complètement secs dans ses prières. Donc, le bon Dieu permet que cette âme soit en tentation, alors que vraiment il cherche à pratiquer la foi, l'espérance et la charité, ouais, cette âme est complètement privée de cette jouissance surnaturelle. Qu'est-ce qu'il va faire dans la tentation? Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien justement, il va se dire, attention, là je risque de céder, avec l'usure je risque de tomber. Eh bien je dois me donner ces jouissances spirituelles. Voilà, je me sens tenté, mais je suis artiste, j'ai fait du piano, etc. Eh bien je vais sur mon piano et paf, là je vais me donner cette... Et je me sens bien, j'oublie que je suis en tentation, que je suis privé de ces joies surnaturelles, mais je me donne ces joies. Ouais. Ou bien, voilà, je vais faire un camp scout, là, je vais me défoncer avec ses enfants, je vais oublier mon problème, je vais plutôt me dépenser avec, etc. Ou bien, je vais assister à une session, je ne sais pas, pour faire du secourisme, etc., pour connaître un petit peu comment on peut rendre service aux autres. Et voilà, voilà, c'est très... Voilà le prêtre, vous voyez, imaginez le prêtre qui n'a plus, parce qu'il s'est donné au bon Dieu complètement, mais qui n'a plus ce souci de s'entretenir dans la curiosité intellectuelle, vous voyez, et dans le goût du beau, etc. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que dans cette épreuve, dans la tentation, etc., étant donné qu'il ne sent plus cette jouissance, il risque justement, ouais, de chercher celle-là, de tomber gravement. Voilà pourquoi vous avez des prêtres qui deviennent alcooliques, qui abandonnent leur religion, etc. Ouais, parce que, étant dans cette épreuve de la foi, cette épreuve, si vous voulez, de leur vie surnaturelle, se sentant complètement déstabilisés et n'ayant pas ce recours, ouais, eh bien, ils vont se plonger, ouais, dans une vie sensuelle, etc. Alors qu'au contraire, alors, vous voyez, Guy Gilbert, vous connaissez ce personnage?
Oui. Ouais.
Alors évidemment, il n'est pas canonisé forcément, hein, à mettre sur les autels. Mais il nous dit que lorsqu'il a affaire à des drogués, ouais, donc des gens qui sont complètement... Vous voyez, le faire comprendre à l'enfant, ouais, que s'il ne met pas sa joie dans les biens spirituels, vous voyez, dans les joies spirituelles, etc., il va complètement se concentrer là-dessus et il va devenir vicieux. Le vice, c'est quoi? C'est un être humain qui met tout son bonheur, ouais, dans la sensualité, dans la gourmandise, dans le confort, etc., qui n'a plus du tout le souci Ouais, d'avoir ces joies purement spirituelles. Alors c'est le vice, et on peut tomber très, très gravement, très lourdement et très profondément. Ouais, quelqu'un qui ne trouve plus de raison de vivre, je ne dis pas de bonheur, mais de raison de vivre, eh bien, avant de leur parler du bon Dieu, de la religion, il essaye de leur donner des joies naturelles. Il les emmène sur les montagnes, etc. Il leur fait découvrir la nature, etc. Et je pense que c'est une très bonne manière de procéder. Très bonne manière. Oui. Avant de faire de ces loques humaines, ouais, d'en faire des chrétiens, il faut d'abord en refaire des hommes. Il faut les humaniser. La grâce ne supprime pas la nature. La nature. Avant d'être capable de trouver son... Ou c'est en même temps. On ne peut pas, vous voyez, avoir vraiment la vie surnaturelle, les joies surnaturelles, sans vivre d'abord d'une manière vraiment humaine, avec les biens qui correspondent à notre nature humaine. Le vrai, le bien, le beau. Alors, bien souvent dans nos écoles et dans nos familles, on n'a pas suffisamment ce souci-là. Vous voyez, de faire en sorte d'enrichir nos enfants de cette culture, vous voyez, de cette pratique du bien, cette pratique du dévouement, et puis du beau. Ouais. Si bien que, vous voyez, lorsqu'on veut éviter qu'un enfant tombe soit dans la drogue, soit dans l'alcoolisme, ou soit dans l'impureté, etc., il faut, bien sûr, lui faire connaître sa religion, lui faire pratiquer sa religion, etc. Mais il faut aussi vraiment l'enrichir, lui donner toutes sortes de possibilités de s'enrichir sur la culture, etc., sur la pratique des vertus, combien ça lui donne une véritable dignité, combien il doit se respecter lui-même par la pratique de certaines exigences. Et puis le beau, avoir le goût du beau. Oui, moi je suis frappé. Comment, quand vous voyez les religieux, ils mènent une vie pénible, c'est vrai, par la vie de communauté, etc. Mais allez voir dans leur cloître, etc. C'est quand même sympathique. Regardez l'architecture de leur église. Regardez leur stall. Hein, ça n'a rien à voir avec ce truc-là qu'on trouve chez Ikea. Hein. Rien à voir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment faire une fête somptueuse, etc., on va dans les cloîtres, on va dans les anciennes abbayes, etc. Parce qu'il y a du beau. Ces gens-là sont constamment, vous voyez, en présence du beau. La liturgie grégorienne... Ouais, est vraiment un chant d'une pureté, d'une sublimité incroyable. L'architecture, tous les plats, mais même le costume. Vous voyez que le costume religieux a toujours une certaine dignité, une certaine élégance, ouais, sans être luxueux. Moi, j'admire beaucoup les costumes des religieuses, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu trop banal. Leur voile là, qui colle à la tête, là, je préfère, à mon sens, vous voyez, ces cornettes qui n'en finissent pas. Et je trouve ça très beau. Regardez le costume religieux. Il y a vraiment un souci d'élégance, de noblesse, quelque chose qui est beau, fondamentalement beau. Vous voyez que les religieux qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans l'austérité, ils vivent constamment dans le beau. Le beau. Ça va avec le vrai. La religion ne peut pas aller avec la laideur, avec le négligé. Et je pense que c'est très important pour vous qui êtes femmes surtout. Vous voyez, dans la manière de vous vêtir, etc. Vous n'avez pas le droit de vous vêtir d'une manière qui est laide, d'une manière qui est négligée, d'une manière qui est triste. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ouais. Mais évidemment, vous devez éviter, justement, tout ce qui, dans votre habit, pousse à ce genre de plaisir. Vous n'avez pas le droit, ouais, dans votre manière de devenir attractive en suscitant ce genre de plaisir sensuel. Vous n'avez pas le droit. Ouais. Il faut faire en sorte que votre habit élève l'âme, que celui qui vous regarde, ouais, ait une vraie jouissance, mais spirituelle. Vous voyez que dans le costume religieux, il y a une sorte de message. Message. Ça n'a rien à voir avec c'est une véritable caricature que le vêtement des musulmanes, ouais, qui violente la féminité. Ça n'a rien de ça, la religion chrétienne. On met en valeur, justement, tout ce qui est dans le vêtement. Moi, il me semble que le vêtement, on peut lui donner trois valeurs au vêtement. D'abord, il faut reconnaître que le vêtement, il a été donné au bon Dieu après la chute au péché originaire. Pourquoi ? Parce que le vêtement, justement, cache en nous, voile en nous, ce qui pourrait être un objet de concupiscence. Nos premiers parents, ils vivaient nus et ils n'en avaient aucune honte. Le péché originel a fait en sorte qu'il y ait une sorte, si vous voulez, d'aliénation, une sorte de rabaissement où, dans le corps de l'autre, on cherche immédiatement un plaisir sensuel. Le vêtement, c'est pour justement amortir cette première impression. On porte le vêtement, et il faut le dire, oui, en signe de pénitence, on se reconnaît que par le vêtement, on cache ce qui, chez l'autre, pourrait susciter des jouissances malsaines. Et c'est un devoir grave. Votre pudeur vous oblige. Même si ça ne vous gêne pas, pensez que nous, hommes, on est très fragiles, très faibles. Et je pense que vous en avez l'intuition. Il m'arrive très souvent, même avec des femmes catholiques, lorsqu'elles rentrent dans mon bureau, elles passent leur temps à être là ou à se tirer sur les robes, etc. Elles sentent bien. Voilà. J'ai pas besoin de leur faire démonstration qu'elles sont habillées d'une manière qui gêne le prêtre. Pourtant, je leur ai rien dit. J'essaye de prendre un regard un peu. Mais elles le sentent d'elles-mêmes. À partir d'où mon vêtement excite chez l'autre, au contraire, une recherche de plaisir sensuel. Là, je suis en faute, évidemment. Vous voyez que dans le costume religieux, ça n'a rien de ça. Au contraire, le costume religieux amortit un peu les formes, la physiologie, etc. Parce que justement, on est détraqué, on est tordu avec le péché originel. Et en voyant une personne, immédiatement, la première réaction, eh bien, elle est sensuelle. On cherche le... Vous voyez ? Donc, retenons ça. Moi, si je porte la soutane, c'est quand même aussi... c'est une manière de rappeler aux autres, attention, il y a la mort, c'est noir, etc. C'est quand même un instrument de pénitence, il n'y a rien à faire, la soutane. Alors, je ne vois pas pourquoi moi, je porterai la soutane, et puis vous, vous allez toujours... Moi, je cherche mon confort. C'est pas juste, enfin. Non, mais je vous le dis sans plaisanter. Je vous le dis sans plaisanter, c'est grave, c'est important. Ouais. Donc voilà le premier élément, mais il n'est pas le seul. Je pense que le vêtement, c'est aussi, ça fait partie de la convivialité. Il doit y avoir quelque chose de festif dans un vêtement. Moi, quand je vais dans une famille, etc., et que je vois que la maîtresse de maison bien habillée, mais je suis honoré. Je sens que là, on a fait un effort, etc. C'est comme une maison qui est bien ornementée. On a le devoir de faire en sorte que le corps, eh bien, soit mis en fête d'une certaine manière, que ça soit réjouissant. Vous n'avez pas le droit de porter un vêtement laid, ridicule. Moi, c'est vraiment une pitié quand on voit ces jeunes femmes, ces mères de famille qui s'obligent à avoir des vêtements qui les rend sorcières, enfin, d'avoir un truc qui les déforme, etc. C'est pas l'esprit de l'Église. C'est pas l'esprit de l'Église. Il doit y avoir quelque chose. C'est pas incompatible. Ouais, cet esprit de sobriété avec une volonté justement de susciter cette joie de vivre, ce contentement, cet honneur à l'invité, etc. C'est dans le vêtement, évidemment. Et puis la troisième chose dans le vêtement, c'est qu'il y a un message. Regardez, lorsque vous voyez les militaires défiler, qu'est-ce que vous voyez ? Sans doute vous voyez le mouvement, mais vous voyez l'uniforme. Hein, c'est la force, c'est la volonté de défendre le pays. Le vêtement lui-même est un message. Hein, donc le prêtre aussi, il porte le vêtement, il en est fier. Ça montre son appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ, sa consécration à Dieu. Et c'est ces trois formes-là. Alors débrouillez-vous, moi je ne veux pas vous donner de consignes. Vous êtes assez fine, je vous fais confiance. Hein, alors je vous le dis peut-être à titre un peu personnel, je ne sais pas si vous allez retrouver chez chaque prédicateur, chaque prêtre, ce genre de consignes. Mais ça me semble, enfin je vois mal, si vous voulez, les objections qu'on peut tellement faire à ce genre de manière d'apprécier l'habit. C'est d'abord un instrument de pénitence, parce que nous sommes tordus et nous sommes foncièrement attirés par le mal, donc l'habit cache. Vous voyez, ce que l'œil malsain peut chercher à découvrir, c'est une sorte, si vous voulez, de... Vous voyez, pourquoi, je vous prends un exemple, pourquoi dans le tabernacle, vous avez la Sainte Eucharistie dans un ciboire fermé, avec une porte de tabernacle et avec un voile devant? Pourquoi? C'est donc honteux, la Sainte Eucharistie? Pourquoi on met toutes ces barrières, hein? Le voile du calice, le voile devant le tabernacle, hein, et en plus fermé dedans. Eh bien pourquoi? Parce que si l'hostie était toujours en vue, on banaliserait, on finirait par croire que c'est une nourriture habituelle. Donc quelque chose qui a beaucoup de valeur, pour éviter que l'œil s'habitue, que l'œil dévalorise, que l'œil banalise, eh bien on le cache. Ouais. Eh bien estimez que le vêtement pour vous, c'est un peu ça. Justement, surtout vous. C'est en vous, surtout, que le bon Dieu met ce don de la vie. La vie, c'est quelque chose de sacré, qui fait toute votre dignité. Et pour que l'homme, vous voyez, en regardant une femme, ne voit pas une marchandise, un plaisir à se donner, mais au contraire, il ait cet œil de respect sur la dignité de la femme, sur la grandeur de la femme, parce que c'est elle qui donne essentiellement la vie, il faut qu'elle soit couverte, parce qu'elle porte en elle quelque chose de sacré. Je pense que c'est ça, la vraie valeur du vêtement. Donc, revenons un peu à notre... Combien il est important, vous voyez, de donner ce sentiment du beau, ouais, du vrai, du bien et du beau. Combien c'est une... après 18 ans dans l'enseignement, mon profond regret, c'est celui-là. C'est celui-là, je pense, de ne pas avoir suffisamment... Autant je pense avoir rempli mon rôle de prêtre en enseignant la foi, en excitant l'espérance et en essayant vraiment d'enflammer la charité, etc. Je pense que je me suis négligé là-dessus. Ouais. J'ai joué aux gendarmes sur ce domaine-là, mais on va toujours à l'échec. Ouais. Comment on guérit un enfant, et tous les enfants, tous, en naissance, sont égoïstes, ils sont sensuels, ils sont coléreux, etc. Comment on leur évite de tomber, de plonger dans la sensualité et dans la recherche unique des plaisirs et de devenir des vicieux, ouais. Sans doute en élevant leur âme par en excitant la foi qu'ils ont reçue au baptême, etc. Mais aussi, et beaucoup, en les enrichissant, ouais, de ces valeurs-là. Alors je pense que pour vous, c'est aussi un danger. Vous voyez, une mère de famille, elle est tellement envahie par les soucis, par le dévouement, etc., ouais, que pour se maintenir, à persévérer, surtout quand les enfants sont en bas, elle se tient uniquement à ses pratiques de piété, à la pratique de la religion. Sans doute, elle doit faire ça, mais elle ne doit pas négliger la culture. Il faut qu'elle prenne du temps à continuer. Souvent, aujourd'hui, je pense que c'est un bien, les jeunes mères de famille ont fait des études, elles ont des diplômes, etc. Il faut absolument... qu'elle dégage du temps pour entretenir en elle ces capacités qu'elles ont, justement, naturelles, de joie naturelle, et qu'elle le transmette aux enfants. Il arrive, moi je le vois par exemple sur le point du sport, vous avez des jeunes gens avant de se marier, ils sont athlétiques, etc., ils font du sport. Vous les revoyez à 35 ans avec une ribambelle de vous, ils ont la bonbonne là. Quel malheur, ils prennent plus le temps de s'entretenir physiquement, mais c'est indispensable. Bon, je connais des couples, justement, eh bien, ils ont 7 enfants, et c'était à Marseille, c'était vraiment des gens exemplaires. Tous les ans, ils se prenaient une semaine, ils étaient musiciens, ils balançaient leurs enfants ici ou là, chez les copains, ou chez les oncles et les tantes, et ils allaient assister à des concerts, etc., un couple amoureux, pendant 8 jours, mais c'est essentiel. Aller au restaurant à deux, etc., mais c'est essentiel, vous avez besoin de ça. Ouais. Alors je pense qu'on peut comme ça arriver à des jeunes mères de famille, mais vraiment héroïques, qui sont dans la dépression, ouais, parce que justement, elles n'arrivent même plus à assumer leur vie chrétienne, elles n'ont même plus le temps, et là, elles deviennent complètement incultes là-dessus. Elles n'ont plus le temps du tout d'étudier, elles n'ont plus du temps de faire un peu de sport, de détente, elles n'ont plus de fréquentation. C'est pas rare de voir des jeunes mères de famille qui vivent complètement isolées. Autant le mari, par sa profession, il a des déplacements, etc., il a des liens sociaux, autant elle est complètement carmélite dans son truc là. Alors elle n'a plus d'amis, elle n'a plus de fréquentation. Mais c'est désolant, comment voulez-vous éviter la dépression dans ces cas-là, ouais. Bon, voilà un message qui me semble vraiment essentiel, ouais, dans l'éducation. Apprendre quelle est la vraie. Alors évidemment, vous voyez, ce qui est dramatique, c'est que lorsque vous avez cette catégorie d'âmes dont je vous ai parlé, qui sont très fortes dans ce domaine-là, ouais, des gens qui ont une culture incroyable, qui font des œuvres caritatives, qui font beaucoup de bénévolat, etc., et puis qui sont artistes, et des gens qui sont irréprochables dans ce domaine-là, mais qui n'ont aucune envie, si vous voulez, ça ne les intéresse pas. La religion, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Alors c'est difficile sur ces gens-là de prendre prise, ouais, c'est très difficile. Parce que justement, ils n'ont rien à se reprocher. Et pour eux, ils ont la vraie joie naturelle. Humainement, naturellement, ils se sentent vraiment bien dans leur peau, avec leurs enfants. Ils ont beaucoup de satisfaction dans les études de leurs enfants. Comment ces gens-là, vous allez les attirer sur la religion? Pas facile. Ouais. Eh bien, il faut leur dire, monsieur, vous ne voyez pas, vous n'avez pas des grands-parents, etc. Vous ne voyez pas que c'est vos grands-parents-là, eh bien, ils ont perdu la mémoire. Le vrai, hein, ils ne savent plus rien tout d'un coup. Ouais. Donc, le bien, vous voyez qu'ils sont sur un lit d'hôpital, ils ne peuvent plus rien faire. Ouais. Et le beau, hein, ils n'ont plus d'amis, ils sont tous morts, etc. Vous voyez que ces gens-là, hein, qui sont vos parents, etc., eh bien, le bon Dieu, avec l'âge venant la vieillesse, le bon Dieu les prive de tous ces biens. Ils sont dans un appauvrissement terrible. Mais s'ils sont chrétiens, tout en perdant leur faculté naturelle, tout en leur capacité, en perdant leur mémoire, il leur reste l'essentiel. Vos parents, même s'ils sont en apparence dans un état végétatif, ils sont chrétiens, ils ont la foi, ils ont l'espérance, ils ont charité. Ils ont la vie divine en eux, ils sont en état de grâce. Allez baiser les mains de vos parents qui ont perdu la tête, parce qu'ils ont gardé toutes leurs valeurs, leurs vraies valeurs, leurs valeurs d'éternité. Alors le jour où vous allez vieillir et que vous allez sentir votre intelligence vous défaillir, vous n'aurez plus de mémoire, etc. Le jour où vous ne pourrez plus avoir d'activité caritative et vous ne pourrez plus pratiquer les arts, etc., que vous aimez beaucoup, eh bien, si vous êtes chrétien, c'est à ça que vous vous rattachez. Et vous vous rattachez à l'essentiel. Parce que là, c'est des valeurs d'éternité. Ces joies-là, vous les retrouverez dans l'éternité d'une manière complètement différente, complètement transformée. Mais si vous quittez votre vie, c'est pas le jour de votre mort, ou le jour où vous allez être hospitalisé, où on va vous enfiler des tuyaux partout, on va dire, ah si maintenant, avant de paraître, je m'inquiétais un petit peu, ça sera trop tard, ça ne se fait pas en 8 jours, ça ne se fait pas en 15 jours, ça. Si, le bon Dieu peut faire des miracles, bien sûr, mais ça sera vraiment du rattrapage. C'est maintenant anticipé, maintenant que vous avez encore toutes ces capacités qui vous donnent ces jouissances naturelles, etc., investissez dans les biens d'éternité, les biens où le ver ne peut pas ronger, où la rouille ne peut pas nuire, etc., dans les biens d'éternité. Voilà, c'est ça qui est indispensable de faire comprendre que ces joies naturelles, elles ne peuvent pas se suffire. Nous sommes appelés à la béatitude. Vous voyez, quel a été le péché des anges? Quel est le péché des anges? Eh bien, le péché des anges, c'est exactement ça. Vous voyez, Satan a voulu mettre tout son bonheur dans sa nature spirituelle, dans son intelligence, dans sa capacité à agir, et puis dans sa beauté. L'ange, quand le bon Dieu lui a proposé de lui donner un bonheur surnaturel, sa propre vie, il a dit, j'en ai pas besoin, je me suffis de ça. Garde ton truc pour toi. Moi, mon bonheur, il me suffit largement. C'est un péché de révolte, un péché, si vous voulez, qui fait une injure à Dieu effroyable. Le bon Dieu veut non seulement nous donner un bonheur humain, naturel, mais il veut nous faire partager son propre bonheur. Il veut nous diviniser. Et on n'a pas le droit de lui refuser. Refuser ce bonheur éternel qu'on trouve dès ici-bas dans la pratique de la foi, d'espérance et de charité, c'est pas facultatif. Je dois, dès mon baptême et le plus tôt possible, on doit donner à l'enfant baptisé, justement, ce droit à ce bonheur surnaturel qui est anticipé déjà par l'état de grâce, par la pratique de la foi et de l'espérance et de la charité. Donc vous voyez, le risque qu'il y a, c'est justement de se limiter à ça, de ces joies qui sont très nobles, qui sont vraiment humaines, etc. Ouais. Mais il y a un autre risque aussi. C'est de vouloir, si vous voulez, uniquement chercher exclusivement ce bonheur-là. Ouais. Mais nous sommes des êtres humains, il faut les deux. Voyez. Et il faut, ces plaisirs-là, il ne faut pas y renoncer complètement. Voyez. La personne âgée, le malade, qu'est-ce qui se passe? Le vieillard. Eh bien, souvent, le bon Dieu fait que la maladie lui supprime les plaisirs. Il n'a plus aucun bien-être. Vous avez des malades, pendant des mois, des années avant de mourir, ils sont constamment dans la douleur et dans la souffrance, c'est le contre-pied de ça. Ils ne peuvent même plus manger. Ouais, ils sont noués. Et puis ne parlons pas de ça, évidemment. Hein, ils peuvent pas. Donc, ces gens-là, dans la maladie, dans la vieillesse, etc., ça, c'est terminé. Ça, c'est en train de diminuer jusqu'au point de disparaître. S'ils n'ont pas ça, c'est le désespoir. Il n'y a plus rien. Ouais. Mais retenons, retenons, c'est essentiel. Vous voyez que un enfant qui est en difficulté, un adolescent, etc., n'allons pas le bourrer, si vous voulez, de biens surnaturels et de le laisser dans une misère, vous voyez, naturelle, dans un dessèchement. Vous voyez, une mère de famille qui n'a pas cette culture, qui n'a pas ses capacités artistiques, etc., bien, très vite, elle se retrouve au bout du rouleau. Et comment elle va faire pour éviter que son enfant aille se plonger sur Internet, aille avec les copains, etc. Comment elle va faire? Lui parler de religion, dès que le gamin entend parler de curé, etc., il fait des bons comme ça. Il faut que cet enfant, il ait cette jouissance naturelle, ouais, par la culture, par le dévouement, par l'art. Ouais. Donc, il me semble, vous voyez, que c'est le message essentiel que je donnerais à un jeune éducateur, à un jeune professeur. On est fait pour le bonheur. Et je pense que l'éducation, c'est apprendre, justement, à mettre sa vraie joie là où elle mérite de l'être, de trouver le vrai bonheur dans justement ce qui fait ma dignité, ce qui fait vraiment ma destinée, ce pourquoi le bon Dieu m'a appelé. Le bon Dieu permet que je trouve des jouissances dans sensuelles qui sont, si elles sont bien mesurées, si elles ne sont pas incompatibles avec celles-là, il n'y a aucun problème. Tant que je mesure les plaisirs de la table, les plaisirs du confort, sans nuire à ma vie naturelle et encore moins à ma vie surnaturelle, tout ça est. Et il faut que l'enfant trouve justement cette harmonie, cet équilibre petit à petit. Il voit bien, ouais, que tous les plaisirs ne lui sont pas interdits, loin de là, il y en a qu'il faut. Par exemple, dans le sport, il y a des plaisirs sensibles, hein, qui sont très forts, qui sont très nobles, qui sont tout à fait compatibles avec les joies naturelles. Ouais. Donc il me semble que c'est un point absolument indispensable. Pour éviter, souvent, dans nos familles et même dans nos écoles, il y a des jeunes adolescents qui sont complètement révoltés, complètement, qui, une fois qu'ils sont adultes, et je pense qu'on en a par paquet de 12, aussi bien chez les dominicaines, je crois que malheureusement, on ne peut pas s'envier les résultats les uns des autres, aussi bien chez les dominicaines que dans la fraternité Saint-Pie-X, justement, ce genre d'enfants qui ont été vraiment plongés dans la piété depuis le plus bas âge, etc., toujours dans les écoles de la tradition, et arrive à 18 ans, pouf, le cadre, ils le font exploser. Est-ce qu'on n'a pas... Moi, je vous assure que je me remets en question. Et principalement là-dessus. Est-ce que j'avais cette richesse, justement, de culture, de goût artistique, etc., pour les armer dans la vie. Et qu'une fois qu'ils seront livrés à eux-mêmes, avec des copains qui sont sensuels, qui sont drogués, etc., ils n'en aient aucune envie. Pour eux, ils ont fait leur choix, leur vrai bonheur, ils l'ont mis là. Ouais, sans doute, ils savent faire la fête aussi, hein, c'est quand même pas des... Hein, mais ils savent que tout ça, ça s'équilibre, et qu'il y a une hiérarchie, qu'on ne peut jamais se donner des plaisirs, eh bien, qui risquent de me faire perdre l'état de grâce, etc. Je ne peux jamais me permettre des lectures, ouais, qui risquent de me faire perdre la foi. Le plaisir intellectuel, il a des limites aussi. Je peux m'instruire, mais lorsque je lis certains auteurs qui sont en train de me faire douter de l'Église, etc., faut que je m'arrête, la culture ne peut jamais se faire au dépend de la foi, et ainsi de suite. Donc je vois un tout cohérent, un tout logique, et l'enfant a besoin de sentir que dans nos familles de la tradition, dans nos écoles, etc., on n'est pas, si vous voulez, des garde-chiots pour éviter l'occasion dangereuse, que mon enfant ne devienne pas un drogué, etc., mais ça devient traumatisant. La religion, ben voilà, c'est quelque chose, en lui présentant ce tableau-là, il n'y a rien qui puisse contrarier ses aspirations les plus légitimes et les plus nobles.